Nourde Amani est doctorante en quatrième année de thèse à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et au laboratoire Framespa, sous la direction conjointe de Daniel Babou et de Cyril Allais. Sa thèse s'intitule « Marc de Tolède en son milieu, les traductions tolédanes au service de la monarchie castillane, deuxième moitié du XIIe siècle, première moitié du XIIIe ». Dans le cadre de ce séminaire, elle va nous présenter une communication sur la cathédrale de Tolède et la permanence des élites mozarabes. Et voilà, je lui laisse la parole.
Merci beaucoup, merci Julie, merci pour l'organisation de ce séminaire avec toi et je remercie aussi Cyril Allier qui a accepté de le présenter et les intervenants et intervenantes qui ont accepté de venir aussi. Comme Julie l'a dit, j'écris une thèse consacrée à l'étude du chapitre cathédrale de Tolède au temps des traductions, et plus précisément au temps des traducteurs qui ont transféré des textes de sciences profanes de l'arabe au latin dans la seconde moitié du XIIe siècle et la première moitié du XIIIe siècle. J'étudie plutôt leur environnement social et culturel, les trajectoires des chanoines et les relations que les chanoines de la cathédrale nouent avec les différentes populations urbaines de Tolède. Et aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser aux relations sociales que tissent les chanoines, les archevêques et les élites mozarabes, donc à cette période entre 1150 et 1250. À cette période particulièrement parce que les élites ecclésiastiques et laïques connaissent de profondes transformations. Comme l'a démontré Jean-Pierre Molena dans son livre « Campagne et monde de Tolède », quelques familles mozarabes qui font partie de l'oligarchie urbaine constituent à cette période un patrimoine qui leur permet de s'imposer comme détentrices d'un pouvoir économique qui vient s'ajouter à un pouvoir politique dont elles disposaient depuis le début du XIe siècle, depuis la conquête. Donc Jean-Pierre Molena démontre aussi que Tolède se distingue par la permanence des mozarabes dans la ville et par la permanence de leur influence sociale, politique et culturelle. Donc j'ai souhaité interroger le rôle de la cathédrale dans la constitution de ces grands lignages, me demander aussi quelles relations est-ce que ces familles entretenaient en une période d'ambition plutôt concurrente. Et effectivement me demander aussi si la cathédrale a joué un rôle dans la permanence de l'influence des élites mozarabes. Donc pour commencer, je dois quand même réduire le groupe des élites urbaines laïques à seulement quelques familles. Donc par élite, j'entends un petit groupe social qui est investi de pouvoirs politiques institutionnalisés. Pour être plus précis, les alguacil alcaldes de Tolède. Ce titre-là, il est en place à Tolède depuis la conquête d'Alphonse VI en 1085. Lorsqu'il s'est emparé de la ville, il a nommé des gouverneurs parmi les chefs de famille ralliés à la couronne et donc les a investis d'une délégation du pouvoir royal. Il leur a confié des titres latinisés, donc en latin ça donne al-wazir al-caldus, qui viennent de l'arabe wazir kadi, et qui insiste sur la transmission d'une partie du pouvoir royal et sur sa représentation en ville. Ce sont des titres arabes, mais ils ne sont pas accordés aux seuls mozarabes de Tolède, puisque Alphonse VII, quelques années plus tard, en 1115, autorise ce qu'il définit comme trois catégories de population à Tolède de disposer donc alguacil alcalde. Donc ces trois catégories juridiques, ce sont les mozarabes, les francs et les castillans. Ce ne sont pas des catégories qui comprennent l'intégralité des populations à Tolède, puisqu'à ce moment-là, il y a aussi des musulmans et des juifs. Donc par francs, ils désignent les populations venues du royaume France alliées à la couronne pour la conquête, et dont une grande partie de clercs clunisiens qui sont venus peupler la cathédrale et les églises. Par castillans, les grandes familles qui vivent aux côtés des rois. Et par mozarabes, eh bien là c'est un peu plus compliqué. Donc, qui sont ces élites mozarabes et qu'est-ce qu'on peut entendre par les mozarabes à Tolède à cette période? Eh bien d'abord, ce sont les chrétiens arabisés qui rentrent dans cette catégorie juridique, donc du début du XIIe siècle. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, les chrétiens arabisés qui ont rallié la couronne au moment de la conquête et dans les toutes premières années. Mais en 1150, cette catégorie juridique, elle ne désigne plus l'ensemble des chrétiens arabisés à Tolède, puisque ce groupe-là s'est enrichi par immigration et aussi peut-être par transmission de pratiques linguistiques et culturelles. parce que pendant notre période, les Francs et les Castillans qui se sont installés au moment de la conquête et dans les premières années du XIIe siècle ont adopté l'arabe comme une langue d'usage pour leurs transactions. Donc, les mots arabes à Tolède, si on adopte le prisme des pratiques sociales pour les définir, constituent peut-être plutôt un spectre qu'on peut décomposer en une diversité de pratiques. C'est-à-dire, certains mots arabes relèvent de leur loi, la loi des Visigoths, qu'on appelle la loi des Visigoths, mais d'autres ont adopté la loi des Castillans, par jeu d'alliance, en particulier lorsque les familles nouent des mariages mixtes. Certains pratiquent le rite mozarabe, puisqu'il y a des églises qui ont eu le droit de conserver ce rite-là, mais d'autres se rallient au rite romain. Et encore une fois, l'anthroponymie n'est pas plus uniforme que ça, puisque certains conservent des noms arabisés, alors que d'autres translittèrent en alphabet arabe des prénoms plutôt de langue romane. Donc le seul facteur commun réside plutôt dans l'adoption de l'arabe pour les actes de la pratique, pour les actes écrits de la pratique. Un arabe de la pratique aussi, ou un arabe de concorde, mais ça j'y reviendrai. Pour aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur quelques grands lignages, les descendants d'Al-Ghassilas Al-Kaldès, dont les ancêtres se sont installés au début du XIIe siècle, parce que ces familles-là construisent rapidement des relations de proximité avec la cathédrale, mais des relations qui ne sont pas du tout exclusives. Donc très tôt, les élites mozarabes intègrent la cathédrale en plaçant leurs descendants lorsque les fratries sont suffisamment nombreuses pour le permettre. Mais la cathédrale n'est pas encore l'institution privilégiée pour certaines marques de piété. Elle n'a pas encore le monopole de la mise en scène de la dévotion des élites dont elle dispose plutôt à la fin du XIIIe siècle. Les élites nouent plutôt des relations privilégiées avec leur église paroissiale et en particulier lorsqu'il est question de funérailles et de messes posthumes. Donc il est assez peu fréquent que les élites mozarabes fassent des donations de biens ou d'argent à la cathédrale. Ça, par contre, c'est beaucoup plus courant chez les grandes familles castillanes. Au lieu de ça, elles ont quelques églises préférées. Là, par exemple, j'ai mis le testament de Melendo, qui est le fils d'un Al-Ghassil Al-Kaldé, qui laisse de l'argent à son maître pour qu'il fasse dire 2000 messes pour son âme. Et la seule donation qu'il effectue à la cathédrale, c'est au milieu du texte, là, il a donné 20 miskalès, donc la monnaie locale, pour faire sortir des captifs hors des terres d'islam. C'est le seul don qu'il accorde à la cathédrale. Tout le reste, y compris le soin de son âme après sa mort, va dans des églises paroissiales, donc Saint-Antoline, Saint-Nicolas, et le grand couvent des Mozarabes, qui est le couvent Saint-Clémenté, qui s'apparente à ce que Mathieu disait juste avant, un monastère familial, c'est-à-dire qu'une poignée de familles lui octroie des donations et brigue les postes d'abbesse, de prieur. Donc on remarque un fort attachement à ces églises paroissiales et un autre élément qui témoigne quand même de la rareté des élites mozarabes dans les messes posthumes à la cathédrale, c'est l'obituaire de la cathédrale où je n'ai trouvé qu'une seule famille, qui est celle de ce chanoine appelé Dominicus Alpolicheni, qui a été archidiacre et qui a donné de l'argent pour des messes posthumes pour son père et pour sa mère. Donc c'est le seul. La deuxième moitié du XIIe siècle est assez marquée par l'absence d'alliance avec la cathédrale, mais ça change un peu au début du XIIIe siècle, en particulier avec l'archiépiscopat de Rodrigo Jiménez de Lada. Donc juste après la grande victoire de Las Navas de Tolosa en 1212, l'archevêque a cherché à constituer dans une villa qui est dans la juridiction de Tolède, une seigneurie ecclésiastique. Ça passe par la multiplication d'achats de terres, cultes ou incultes, et l'achat massif de tout ce qui s'y trouve en réalité. Et ce projet-là, les grands lignages mozarabes vont y souscrire. C'est-à-dire qu'entre avril 1213 et septembre 1213, les élites politiques vont coopérer directement et donner spontanément les terres qu'elles ont dans cette localité-là, donc elles ne les vendent pas, elles les donnent. Et les Al-Ghassil Al-Kaldès, ils saisissent aussi l'occasion de faire une démonstration de dévotion, puisqu'ils disent faire ces donations, selon la formule courante, pour le soin de leur âme et en vue d'une récompense divine. Donc probablement que cette alliance est plutôt une alliance de circonstances, qu'elle est en lien aussi avec la récente victoire de l'archevêque. c'est ce qui nous montre aussi que les alliances entre les élites mozarabes et la cathédrale sont surtout contextuelles et très ponctuelles finalement. Donc comme les lignages et l'archevêque défendent parfois des objectifs concurrents, là on a eu un cas d'alliance, mais il y a des cas où c'est une course pour l'acquisition des terres, les enfants des dignitaires qui se retrouvent, les enfants dignitaires du chapitre, donc les enfants des élites mozarabes, se retrouvent parfois pris entre leurs deux appartenances, donc entre les obligations qu'ils ont envers leur lignage et les obligations de l'église, de la cathédrale. Donc les grandes familles mozarabes, comme la cathédrale, ont des desseins intergénérationnels, c'est-à-dire que l'objectif de ces lignages, c'est de préserver, accroître et transmettre un patrimoine et préserver le statut social de la famille, qui sont des ambitions qui sont projetées sur les descendants et que les descendants se doivent, en théorie, de continuer. Et donc face à ce qui pourrait s'apparenter à un conflit de loyauté, les chanoines issus de ces grandes familles adoptent des stratégies différentes qui dépendent en grande partie de la situation de leur famille de sang. Par exemple, ici, on a un cas d'un chanoine qui, pour éviter que les terres qu'il achète tout seul doivent être données à l'Église, il les achète en copropriété avec son neveu. Comme ça, à sa mort, la terre passera directement à son neveu et ne sera pas comptée dans les biens du testament puisqu'une partie doit revenir à l'Église. Et c'est une stratégie qui est prolongée par ses sœurs puisqu'elles sont respectivement abbesses et prieures d'un couvent, le couvent Saint-Clémenté dont je parlais juste avant. Et elle prolonge les mêmes logiques, c'est-à-dire que lorsque les parents de ces personnes font un don soit à la cathédrale, soit au couvent, eh bien, tout de suite, ils sortent le bien des propriétés de la cathédrale et du monastère pour le donner à des membres de la famille qui ne sont pas dans l'église. Cependant, la défense des intérêts du lignage ne s'effectue pas toujours contre les intérêts de la cathédrale et il arrive que l'institution décide de prêter assistance à des familles mozarabes en difficulté. Et c'est le cas de l'archidiacre et archiprêtre dont je parlais aussi juste avant, Dominicus Ben Abdallah, dont le lignage s'est éteint au début du XIIIe siècle, très peu de temps après sa mort, et qui, de son vivant, tente d'accumuler beaucoup de biens pour sa parentèle, mais avec un patrimoine financier très modeste. Et la cathédrale va participer directement à ses tentatives pour contrer le déclin de la famille. C'est-à-dire qu'au tout début de sa carrière, en 1174, l'archevêque, avec l'accord des chanoines, va concéder à ce chanoine-là des terres hors de Tolède pour qu'il les fasse cultiver, qu'il les possède en usufruit, qui est une donation qui s'ajoute à la prébende du chanoine et dont aucun chanoine de son temps ne bénéficie, donc c'est le seul. Elle est complétée par une autre donation de terres agricoles du comte Nuno Pérez de Lara, qui est effectuée à la demande de l'archevêque. Et le comte précise qu'il l'effectue donc à ce chanoine-là parce qu'il fait partie des neveux et des amis de l'archevêque et donc qu'il souhaite lui porter assistance. Donc l'archidiacre trouve dans la cathédrale une famille complémentaire qui essaie de contrer le déclin de son lignage. Cela dit, le conflit de loyauté n'est pas toujours partagé par l'ensemble des chanoines puisque certains se détournent tout simplement des ambitions de leur lignage, n'ont pas d'ancrage particulier avec leur ancienne famille et se tourne tout entier vers une carrière ecclésiastique. Et c'est tout particulièrement le cas pour les chanoines qui sont issus de très grandes fratries. Donc dans ces deux cas, on voit comment la cathédrale peut participer, contre son gré ou de plein gré, à la réussite d'un lignage, à défaut d'avoir réussi à sauver celui-là cependant. Mais les élites laïques sont aussi pourvoyeuses de modèles culturels que va adopter la cathédrale. Donc elle ne permet pas seulement une permanence et une réussite économique et sociale, mais aussi une permanence culturelle des pratiques écrites des mozarabes. Et cela passe notamment par ces fameux actes notariés dont je parlais au début, puisque entre 1150 et 1250, plus de la moitié de ces actes en arabe concernent membres de la cathédrale ou l'institution elle-même. La cathédrale adopte une culture écrite notariale qui est celle des mozarabes et qui se fixe dans la seconde moitié du XIIe siècle. Elle l'intègre à sa propre prose, dans ses propres archives, comme en témoignent les cartulaires dans lesquels on retrouve ces actes en arabe. Mais les intérêts de la cathédrale influencent aussi beaucoup la langue de ces actes notariés-là. Le vocabulaire et les besoins spécifiques de la cathédrale se retrouvent à travers, comme vous en avez quelques exemples ici, à travers des translittérations de termes soit castillan, franc, parfois latin, qui sont translittérés directement en arabe. Donc dans la seconde moitié du XIIe siècle, la langue des chartes s'enrichit de très nombreux emprunts aux langues romanes et on y retrouve tout le vocabulaire de la hiérarchie capitulaire. Donc j'ai mis ici archidiacre, archiprêtre, couvent aussi, trésorier qui est quasiment tel quel, mais aussi des statuts un peu spécifiques et pas forcément très bien définis comme acolyte, acolytus. Et d'autres catégories juridiques à part entière comme anniversario, qui est le fond de la cathédrale qui sert aux messes posthumes. Donc la langue de la documentation arabe est en cela une langue de concorde qui s'adapte aux acteurs les plus fréquents, donc, dont l'institution ecclésiastique fait partie, et aux intérêts particuliers de cet acteur urbain-là, en créant une prose juridique qui est assez précise et qui correspond aux catégories juridiques de l'institution ecclésiastique aussi. On retrouve donc un phénomène d'acculturation réciproque avec des élites qui créent une culture notariale adoptée par les membres du chapitre. Et c'est ce que l'on retrouve aussi dans la manière de se présenter des chanoines, puisqu'ils vont intégrer dans leur titulature des titres qui sont plutôt accordés et portés dans la première moitié du XIIe siècle par les élites mozarabes. Alors on a le cas là avec un des descendants, donc qui est toujours la même personne, un des descendants d'un alguacil alcalde qui se nomme le noble archidiacre, avec une formule laudative juste après, que Dieu fasse durer sa gloire. Donc tout ceci est emprunté aux formules en arabe qui suivent les membres de sa famille qui sont alguacil alcalde. Donc cette reprise-là, elle s'insère finalement dans la continuité de la titulature des grandes familles mozarabes, mais elles sont aussi appropriées et enrichies par des enfants d'alguaciles francs et castillans à la fin du XIIe siècle. Et c'est la deuxième personne que vous avez ici avec Michael Estebanes, qui est le fils d'un alguacil assez connu qui s'appelle Esteban Julianes, et qui se présente comme le doyen, ça c'est son statut à la cathédrale, le noble, le bien-aimé, le parfait, dans Michael Estebanes, que Dieu préserve sa dignité. Ce ne sont pas les seuls membres de la cathédrale qui vont puiser dans la culture mozarabe pour trouver des insignes du pouvoir, puisque les archevêques aussi vont créer leur propre titulature, donc à cette même époque, à la fin du XIIe siècle. Et tout particulièrement Martin López de Pisuerga, qui reprend ce fonctionnement, mais avec un vocabulaire plutôt inhabituel, c'est-à-dire qu'il se fait nommer le vénérable, le saint, le vertueux, que Dieu le maintienne longtemps en vie. Donc le modèle est bien celui de la titulature des élites mozarabes, mais les qualificatifs qui s'approprient sont propres à son statut d'archevêque, c'est-à-dire qu'à part lui et l'archevêque qui suit, Jiménez de Lada, personne ne se dit le saint dans les chartes en arabe. Donc je vous ai mis aussi la continuité de Jiménez de Lada, qui utilise lui Maulana, donc maître, le saint, le vertueux, le prima, qui est aussi translittéré en arabe, le plus juste, dont Rodrigo Jiménez de Lada. Donc l'influence des élites mozarabes sur la titulature des membres de la cathédrale est notable. Elle prodigue bien des modèles de pouvoir qui sont repris par les élites ecclésiastiques, mais qui sont aussi transformés pour créer des identités cléricales distinctes qui suivent les hiérarchies ecclésiastiques. Et les archevêques, là-dedans, se distinguent évidemment tout particulièrement. Quelques mots de conclusion. Donc la permanence de l'influence politique, sociale et culturelle des élites mozarabes, elle est facilitée par des alliances contextuelles, plutôt noué avec les archevêques, comme on a vu précédemment, malgré ses ambitions concurrentes, puisque les conflits territoriaux n'apparaissent pas encore tout à fait, mais un peu plus tardivement. Placer un descendant du lignage comme chanoine est déjà une alliance en soi, donc est déjà un moyen en soi d'intégrer toutes les institutions de pouvoir urbaines, et pas seulement le conseil urbain. Et l'archevêque, à ce moment-là, donc, donne nécessairement son accord. Donc c'est là aussi directement une alliance avec l'archevêque. Et ces chanoines-là sont aussi, plus probablement, les agents de la continuité culturelle des élites mozarabes, c'est-à-dire que ce sont eux qui diffusent au chapitre des pratiques écrites propres à leur famille, qui vont se diffuser auprès de chanoines qui ne viennent pas de ces familles-là, mais qui vont aussi se diffuser auprès de familles castillanes et franques dans le domaine laïque. Donc reprendre et transformer des éléments de cette culture écrite, c'est aussi pour l'Église, à ce moment-là, une manière de former une image d'une Église universelle qui en a besoin dans une ville qui reste multiculturelle sur toute cette période.
Merci beaucoup pour cette communication. Et si ça vous convient, on va passer un temps de questions.
J'ai qu'un seul établissement régulier, c'est le couvent privilégié par les mozarabes. Et pour ce qui est de placer donc, des enfants, oui, évidemment, c'est un couvent féminin, c'est la voie royale pour les filles de ces lignages-là. Et comme ce sont plutôt les mozarabes qui passent ce genre d'alliance avec ce couvent-là, je ne peux pas vraiment voir si les titres se répandent aussi auprès des autres moniales. Évidemment, l'abbesse, c'est toujours une fille de Nalgasil, donc elle aussi, elle le reprend, mais peut-être parce que c'est sa famille, et donc la titulature de sa famille, et pas forcément celle de son titre. Pas beaucoup, surtout dans le fonds notarial arabe. C'est vraiment là qu'on trouve la documentation la plus importante avant le XIIIe siècle, puisque après... il y a quelques archives qui ont été éditées, mais il y a très longtemps, et qui concernent donc la période après le XIIIe siècle, donc je ne les ai pas vues. Et finalement, non, on en sait peu, et c'est très dommage, parce qu'en plus, il y a une population féminine qui est assez intéressante, parce qu'on y retrouve pas que des élites urbaines, mais par exemple, je ne saurais pas dire pourquoi est-ce qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup de captifs musulmans, et pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup plus qu'à la cathédrale. Ça, je l'ignore. Il est impossible que la monarchie n'ait aucune prise dessus, puisque la monarchie nomme encore les alguaciles alcaldes, et que la production notariale arabe, elle est attachée par un notaire. Elle est faite par un notaire attaché à chaque alguacile alcalde. Donc, ce milieu-là croise le milieu royal et est en lien avec le milieu royal. Pour ce qui est de promouvoir l'arabe, une activité contemporaine qui ferait penser à une promotion, c'est celle des traducteurs de sciences profanes et la traduction du Coran par Jiménez de Lada. Mais il n'y a pas d'autres traces d'une implication directe, ni du roi, ni des membres de la cour, juste les archevêques. En fait, la cathédrale a un fonds financier entier pour consacrer au rachat de captifs. Ce qui est un peu étrange parce qu'il y a un hôpital de captifs tenu par un ordre militaire dans la ville, mais le fonds de rachat, il est du côté de la cathédrale. Et quand la conquête s'intensifie, que les victoires de la couronne de Castille s'intensifient plutôt, donc au début du XIIIe siècle, les élites urbaines, donc dans un sens plus large cette fois-ci, pas que les mozarabes, toutes les élites urbaines, font des donations spontanées extrêmement fréquentes, peut-être parce qu'il y a plus de chrétiens qui ont été faits prisonniers, peut-être aussi parce que comme ce fonds se met en place, et là aussi c'est une marque de dévotion assez facile, mais ça devient institutionnalisé parce que à partir de 1210, on n'a plus un testament sans un petit don pour aller racheter les chrétiens en terre d'islam.